Cinquième République, anatomie d'un régime en crise.
Absence de majorité, compromis difficile, coalition fragile, censure. Longtemps gage de stabilité, la Ve République est aujourd'hui fragilisée comme jamais depuis son origine en 1958. Saura-t-elle, comme par le passé, surmonter ses difficultés ?
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec la spécialiste de la Ve République, la juriste Anne-Charlène Bézina.
Épisode 4, 1986. L'invention de la cohabitation.
Je mesure l'importance du changement qu'implique dans notre démocratie l'arrivée aux responsabilités d'une majorité politique dont les choix diffèrent sur des points essentiels de ceux du président de la République. Il n'y a de réponse à cette question que dans le respect scrupuleux de nos institutions. François Mitterrand, le 17 mars 1986. On poursuit la discussion avec toi, Anne-Charlène Bézina. Là, on est sur un crash test des institutions de la Ve République. Cette Ve République, tu la commentes dans ce livre chez Ixo, cette Constitution qui nous protège, qui est un commentaire presque pas à pas de cette Constitution. Là, c'est une nouvelle page de la Constitution qui s'écrit avec une cohabitation qui n'était pas prévue par les pères fondateurs de cette Ve République.
Déjà, on peut dire que ce terme de cohabitation, il n'existe pas.
Mais oui.
En réalité, c'est un vocabulaire, plutôt journalistique d'ailleurs, je crois, qui est trouvé parce que François Mitterrand en a horreur au départ.
Je crois que c'est Balladur qui l'emploie la première fois.
C'est vrai. C'est vrai qu'on cherche. Alors, toute ressemblance avec la période actuelle n'est pas à exclure parce qu'au départ, Mitterrand dit « je préfère le terme de coexistence ». On voit bien que la coexistence avait été inaugurée d'ailleurs entre Emmanuel Macron et Michel Barnier. Donc, l'idée de la coexistence, de la cohabitation, on ne sait pas trop à quoi s'en référer parce que ça signifie qu'on a un président de la République qui a été élu au suffrage universel direct, qui est d'une couleur politique, mais que l'Assemblée nationale, élue au suffrage universel direct, donc concurrente en termes de légitimité, qui a autant de lustre que le président, est d'une nouvelle couleur politique. Alors, on dit beaucoup que la cohabitation, elle est comprise par la Constitution, en tout cas, c'est un peu ce qu'on va dire en 86, mais en réalité, elle n'est absolument pas gaulliste, la cohabitation, pour une simple et bonne raison, qui est une raison de sentiment de la responsabilité politique gaullien. C'est-à-dire que, je te l'ai déjà dit, il a cette idée de la majorité suffisante. Il faut qu'un scrutin lui plaise pour qu'il ait le sentiment d'être suffisamment avalisé pour rester en poste. Une Assemblée nationale qui est de majorité opposée à ses vues aurait évidemment conduit à sa démission.
Ah, donc, tu penses, le général de Gaulle aurait démissionné dans l'esprit qu'il avait
vraiment,
de la
5e. L'esprit gaulliste est celui-ci. C'est-à-dire que le président de la République, normalement, ne tolère pas de voir de nouvelles élections, un peu comme une succession des lois dans le temps. C'est-à-dire, j'ai été élu en telle année, l'Assemblée nationale qui arrive après, eh bien, vient de me faire une défaite.
C'est l'esprit de Gaulle, mais est-ce que c'est aussi l'esprit de la 5e que le président démissionne s'il n'a pas la majorité au Parlement ?
Je crois en effet que l'esprit gaulliste est l'esprit de la 5e au départ, même si en fait, si tu prends un analyste comme Guy Carcassonne, il te dit il y a un peu une constitution pendant de Gaulle et une constitution après de Gaulle. C'est-à-dire qu'on lui a trouvé un nouveau sens. Et Mitterrand et Chirac se rassurent un petit peu mutuellement
en
86.
Parce que Chirac est nommé à Matignon.
Il y a une petite semaine, d'ailleurs, avant que Chirac soit nommé, pendant laquelle ils sont choqués, en réalité, tous les deux, François Mitterrand et Jacques Chirac. Et ils se rassurent avec la lecture de la constitution et quelque chose de finalement très courtois entre les deux. On le dit peu, mais Jacques Chirac, revenu à la mairie de Paris, dit « Les Français ne doivent avoir aucune crainte, je respecterai évidemment les prérogatives immuable du président de la République. Les prérogatives, il en fait presque un totem, en quelque sorte. Donc, les choses se passent relativement bien par rapport à ça.
Mais le président de la République, et on le voit de nos jours, c'est lui qui décide qu'il nomme à Matignon. Est-ce qu'il y a eu une tentation d'aller chercher quelqu'un, peut-être pas de gauche, mais plus de centre, où la gauche aurait été plus valorisée dans un gouvernement qui serait un gouvernement d'intérêt général ou quelque chose de cet ordre-là en 1986, où c'est une évidence qu'après le raz-de-marée RPR-UDF, c'est le chef de la majorité qui ira à Matignon, Jacques Chirac.
C'est une évidence, mais que Mitterrand va fausser un petit peu en disant « J'ai l'article 8 avec moi, j'ai le choix, je vais réfléchir, il déjeune deux fois avec Jacques Chirac pour le tester, en quelque sorte. » Mais au fond, je pense qu'il ne faut pas se leurrer sur le fait que l'article 8 donne une liberté au président de la République. C'est une réalité. De Gaulle est très ferme là-dessus dans la rédaction de la Constitution. Le président de la République nomme le Premier ministre. Il n'y a plus l'appel à la responsabilité et à la confiance de l'Assemblée, hein, et il y tient lors de la rédaction. Donc il y a une liberté.
Ça, c'était la 4ème République.
C'était la 4ème République. Il y a une liberté de la part du président, même si la majorité commande les choses. Mais j'ai bien dit la majorité, c'est-à-dire que c'est pas vraiment le groupe gagnant qui peut quelque chose. C'est le groupe gagnant, la majorité absolue des sièges de l'Assemblée nationale. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on sait très bien que si le président de la République s'amusait, justement, comme avait voulu le tenter François Mitterrand, à nommer une Simone Veil ou etc., eh bien, elle serait immédiatement renversée. Parce que la majorité absolue, elle est godillot, en quelque sorte. Elle peut faire absolument ce qu'elle veut avec son gouvernement. Donc, la majorité absolue décide et François Mitterrand se plie, évidemment. Même si, au départ, la cohabitation, elle est un petit peu musclée, quand même, entre les deux hommes. Chacun campe sur ses prérogatives. Il y a un message écrit de François Mitterrand aux assemblées, qui est assez ferme, quand même, en disant « la Constitution me ménage des pouvoirs que j'entends tout à fait utiliser. Il le fait à l'international. La théorie du domaine réservé qu'il avait tellement critiquée dans les premières années du gaullisme, alors là, il l'utilise comme étant finalement une partie de la Constitution, alors qu'elle n'est pas dans la Constitution, cette idée du domaine réservé. C'est Jacques Chaban-Delmas qui l'innove complètement. Ah. C'est de la pratique, c'est l'idée. Alors,
même pas les affaires internationales.
Si tu veux, depuis même, en fait, l'histoire, l'idée, c'est toujours qu'à l'international, il y ait une seule tête qui vienne représenter. Ouais. On n'imagine pas les 900 parlementaires.
En 97, on en a eu deux.
En réalité, il y a une tête, parce que c'est assez logique en termes de négociations internationales, mais il n'y a rien qui l'oblige. Dans la Constitution, on a un président qui est chef des armées, mais on a un Premier ministre qui est chef de la défense. Donc, ça prouve bien qu'en réalité, les deux têtes sont tout le temps amenées à devoir collaborer.
Est-ce qu'en 86... on relit comme jamais la Constitution de part et d'autre. Est-ce que c'est un grand moment constitutionnel ?
C'est un très grand moment constitutionnel. On a Jacques Attali qui le raconte, d'ailleurs, dans plusieurs de ses ouvrages, en disant on a été mis en face d'une période très dure quand même, très violente, où on craignait un petit peu sur la remise en question du président lui-même, sur l'appel à la démission, sur la fragilisation de l'institution présidentielle. Et on relit la Constitution, on recherche tous les espaces qu'elle va laisser au président. Et en fait, Mitterrand, même s'il n'est pas gaullien dans le sens de la responsabilité, va devenir encore plus gaullien que De Gaulle, dans ce moment-là, puisqu'il va relire toute la Constitution à son avantage. Et puis, c'est là qu'on va se rendre compte qu'en politique, le less is more fonctionne très bien. C'est-à-dire que, en fait, la cohabitation, elle est complètement un poison pour le Premier ministre, parce que c'est lui qui est sous le feu des projecteurs, c'est lui qui endosse la responsabilité, c'est lui qui fait le sale boulot. Et le président de la République, alors certains analystes diront la période de la cohabitation, c'est une cure thermale en réalité. C'est-à-dire que le président est tranquille, il s'occupe de l'unité de la nation et de ce fait, eh bien, il est aimé des Français.
Et il est réélu.
Et il est réélu.
En 1988, contrairement à Jacques Chirac.
C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on parle de la figure de tonton, parce que justement, il devient tellement protocolaire, il devient tellement retiré de la vie nationale que, eh bien, on se met à l'adorer.
On va passer aux autres périodes de cohabitation, parce qu'on en a connu et c'est devenu quasiment une règle, en tout cas une habitude. Mais quand même, cette première cohabitation, comment elle se passe concrètement ? Moi, j'avais lu un Mitterrand qui refuse de signer les ordonnances. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que le président de la République, il a la capacité aussi de freiner des choses qui, idéologiquement, lui sont insupportables, comme les privatisations, par exemple?
Oui, il a cette capacité et à la fois, il ne l'a pas complètement dans la Constitution. En fait, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que, tu sais, on parle très souvent de la présidentialisation de la 5e. On a parlé de régime césariste quand on a eu 58. Mais cette présidentialisation, elle résulte pas nécessairement des pouvoirs du président dans le texte, mais de l'usage très présidentiel qu'ils en ont fait, en réalité. Par exemple, dès 60, le général de Gaulle refuse de convoquer le Parlement en session extraordinaire. J'explique un peu ce que ça veut dire, c'est-à-dire que, normalement, il y a un planning du Parlement, et hors planning, le Parlement peut vouloir se réunir pour terminer un travail. Eh bien, le général de Gaulle dit non, ça ne me convient pas, ça ne rentre pas dans mon agenda. Mais Valéry Giscard d'Estaing le fait aussi, et Mitterrand ensuite. Donc, ça prouve qu'en fait, dans l'usage des pouvoirs, eh bien, le président peut tout à fait représidentialiser cette 5e. Et là, c'est ce que va faire Mitterrand. Il utilise tous ses pouvoirs pour une forme de capacité d'inertie. Sur la signature des ordonnances, oui, on nous dit, le président signe les actes qui sortent du Conseil des ministres. Mais normalement, c'est une signature protocolaire, encore une fois. Quand ça n'est pas lui qui décide. Normalement, il signe de manière un peu acquise, comme la reine d'Angleterre signerait. Oui. Eh bien non, Mitterrand dit « j'ai le droit de signer, j'ai le droit de ne pas signer ». Alors pour le coup, ça ne change pas grand-chose, parce que Jacques Chirac va passer par une autre voie, le même texte. Mais Mitterrand aura montré sa capacité d'inertie et il va le faire en tout point. À l'international, il dit « je ne veux absolument pas être accompagné dans mon avion présidentiel ». Chirac tente un peu de venir au sommet au départ de l'Union européenne, etc. Il voit très vite que ça n'imprime pas. Et donc, le domaine réservé, il le prend en plein. Il est chef diplomatique, il est chef des armées, il est chef international, européen. Et ça fonctionne.
il sera peut-être un peu moins malveillant avec Édouard Balladur en 1993, vieillissant peut-être aussi François Mitterrand, c'est sa deuxième cohabitation. Et puis ensuite, il y aura encore une très longue cohabitation entre 1997 et 2002, entre la gauche dite plurielle et Lionel Jospin à Matignon, et le même Jacques Chirac, qui se trouve avoir été Premier ministre de cohabitation, qui devient président de cohabitation. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces moments-là? Est-ce que ça a changé la donne de notre rapport à la Constitution, ces années-là de cohabitation, ces longues années?
Oui, ça a changé, à mon avis, aussi quelque chose de la part de l'opinion. On dit souvent que les cohabitations étaient impopulaires, c'est pas vrai. En réalité, les Français étaient assez satisfaits de ces périodes de cohabitation parce qu'il y a des choses qui se font, en réalité, du côté du Premier ministre de cohabitation. Et il y a quand même un continuum national avec ce président. Donc ça n'a pas mécontenté les Français. La deuxième cohabitation baladurienne, on l'appelle souvent la cohabitation de velours parce que ça se passe trop bien, en réalité, entre les deux hommes. On reproche même à Mitterrand de concéder beaucoup à Balladur comme une réforme constitutionnelle sur l'asile qui a été très, très contestée parce que la réforme vient surmonter le juge constitutionnel. Donc, tu vois, un peu comme la période du coup d'état de droit de la décision immigration qu'on a eue en 2023, et bien là, le président capitule complètement, finalement. Il affaiblit l'institution constitutionnelle du Conseil, donc ça lui a été reproché. En 97, Chirac l'a connu de l'intérieur, la cohabitation, donc ça lui fait pas peur. D'ailleurs, il y a une conférence de presse qu'il utilise en disant... Je connais bien la Constitution dans ces moments-là, et pour vous dire, elle porte plutôt bonheur au président de la République, et il est réélu.
Petit flashback quand même, hein. Ça suit une dissolution.
« 21 avril 1997.
Mes chers compatriotes,
après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, j'ai acquis la conviction qu'il faut redonner la parole à notre peuple afin qu'il se prononce clairement sur l'ampleur et sur le rythme des changements à conduire pendant les 5 prochaines années. »
Donc un geste présidentiel qui a été une catastrophe politique, mais qui est un geste présidentiel gaullien, quasiment, de la part de Chirac, qui s'est toujours revendiqué de cet héritage du général de Gaulle.
Complètement, et tu sais, on a dit que c'était une dissolution à l'anglaise. C'est quoi ce terme de dissolution à l'anglaise ? C'est un peu ce qu'a fait Mitterrand en 81 et en 88. C'est-à-dire que, en réalité, si tu veux, Mitterrand veut essayer d'avoir une majorité plus confortable. Et bien, la dissolution à l'anglaise, c'est ça. C'est-à-dire, en fait... Parce que ça fait partie de l'histoire du régime britannique. Mais bon, pour le coup,
on explique. Ouais. En 95, il est élu.
Ouais.
Il ne dissout pas.
Non.
Donc, il a la majorité de 93, celle qui avait porté Édouard Balladur à Matignon. Et il se dit, en 97, avec Dominique de Villepin, dit-on, 4 ans plus tard, je vais dissoudre pour avoir une meilleure majorité.
C'est ça.
Pendant plus longtemps.
Ouais, c'est un peu l'idée. Si tu veux que la majorité de 93, c'est une majorité un peu baladurienne, et tu sais qu'il déteste Édouard Balladur depuis 95 quand même, qui s'est présenté contre lui.
Et Nicolas
Sarkozy.
Et il
fait peut-être aussi l'erreur de composer un gouvernement sans aucun baladurien. Il a la dent dure en 95, et donc il fracture sa propre majorité, et ça porte jamais vraiment bonheur sous la 5e. Son premier ministre Alain Juppé est complètement discrédité par les manifs dans la rue de décembre 95. Donc il est dans une ornière parce qu'il va y avoir des grosses échéances européennes aussi, des élections au Parlement européen, mais aussi des traités comme Amsterdam à signer qui sont très importants. Et donc il consulte beaucoup, hein, contrairement à une dissolution qui a eu un peu plus de presse encore en 2024, mais il consulte beaucoup, il consulte des sondages, il essaye de voir un peu le mouvement de l'opinion et il a l'impression que c'est favorable. Il se dit, si j'attends un peu, je vais vraiment aller vers un échec tellement fort que je vais coûter à un projet un peu plus grand que moi, qui est le projet européen. Donc il faut que j'y aille maintenant. Il se convainc du
fait
que...
Parce qu'il y avait des élections prévues l'année suivante.
C'est ça, élections prévues l'année suivante, mais qui lui étaient a priori
d'accord,
dans les sondages pas tellement favorables.
Il anticipe
en se disant, je fais le coup de poker, quoi. En quelque sorte, si je raccourcis le timing, peut-être que ça me sera plus favorable. Et en fait, c'est l'échec complet.
Et il se retrouve avec une majorité à Matignon, opposée à la sienne, pendant 5 ans.
La nouvelle normalité
devient la cohabitation.
Exactement. Les cohabitations qu'on avait connues sur les septennats, en fait, tu sais, ça faisait 5+2. Et donc, en fait, on avait 5, normalement, où ça se passait relativement bien, plus 2 de cohabitation. Alors que là, en fait, c'est un analyste qui dit Chirac, il a inventé le quinquennat de 2 ans, en fait. Parce que, pour le septennat de 2 ans, à l'époque. Parce que c'est vrai qu'il a eu 2 ans. Et après, il a passé 5 ans en cohabitation, ce qui est absolument énorme. Et en plus, tu sais quelle a été sa grosse erreur sur la dissolution, c'est de ne pas parier sur l'alliance de la gauche. Tu te rends compte, c'est quelque chose quand même qui, dans l'histoire, résonne un peu.
La droite
a un petit peu de mal avec ça. Mais pour le coup, la gauche plurielle arrive à des victoires électorales. Il y a eu des victoires sur la sécurité sociale, plein d'éléments qui fonctionnent. Et une bonne concorde, en fait, au niveau du sommet de l'État. Jacques Chirac joue assez bien ce rôle de tonton, à nouveau, parce qu'il a vu comment ça fonctionnait de l'intérieur. Il y a des réformes constitutionnelles qui sont menées par les deux hommes en concorde. Au niveau des sommets internationaux, ils font toujours des conférences de presse communes après. Oui. Donc, en fait, on a l'impression que ça se passe trop bien. On commence à s'habituer à la cohabitation. Et bizarrement, ce sont ces deux hommes-là qui disent bah, « on va changer le système constitutionnel pour que les cohabitations n'aient plus lieu d'être, sauf erreur dans le calcul de la dissolution ».
Tu as dit tout à l'heure la malédiction du Premier ministre, elle va avoir lieu en 2002, puisque Lionel Jospin, Premier ministre, est battu par le président de cohabitation Jacques Chirac. Mais la grande nouveauté en 2002, c'est Jean-Marie Le Pen au second tour. Voilà qui lance un nouveau défi à la constitution de la Ve République. Ça sera l'objet de notre prochain épisode.
Ve République, anatomie d'un régime en crise, un podcast original de France Inter.